Alors aujourd'hui, c'est pour une fois n'est pas, enfin une fois n'est pas coutume, je laisse un peu tomber Paul et puis je parle d'autre chose. C'est des choses qui sont venues. Alors c'est pas forcément très clair dans ma tête, c'est pas abouti non plus, mais c'est juste des idées qui me sont venues en préparant pour les ados. Et c'était au sujet des désirs et des besoins. Alors je voulais faire des choses avec les ados sur les ados qui se sentent pas bien, qui sont le mal-être des ados et pourquoi. Puis ben j'en étais arrivé à réfléchir aux désirs, aux besoins et à me dire ben est-ce que finalement pour un chrétien c'est bien d'avoir des désirs? Alors c'est juste la question comme ça. Je sais pas si j'y réponds vraiment, mais je donne des petits morceaux par-ci par-là et des choses que j'ai trouvées intéressantes en relisant des versets. Donc ce sera beaucoup beaucoup de versets et très peu de ce que je vais dire, mais je pense que c'est d'autant mieux. Alors j'ai cherché un petit peu les définitions de désir et de besoin parce que c'est des choses assez similaires. Et donc sur Wikipédia, on peut trouver la définition du désir. Le désir est une tension issue d'un manque, et en ce sens, on ne désire que ce dont on manque. L'être tend vers un but considéré comme une source de satisfaction pour soi, ou par extension un autre individu. Le désir est tantôt considéré positivement comme un moteur, tantôt considéré négativement comme une source de souffrance, une forme d'insatisfaction. Après, dans un dictionnaire plus classique, le petit Robert, envie d'obtenir quelque chose pour en avoir du plaisir, aspiration, envie. Et l'article de Wikipédia est assez intéressant. Il y a pas mal de philosophie, de choses comme ça, mais il y a des petites phrases intéressantes, je trouvais. Donc je vous en relis encore un petit morceau. Le désir suppose la conscience d'un manque. Dans ce sens, il montre notre imperfection. Les moralistes mettent l'accent sur le caractère douloureux du désir et sur son aspect illimité quand il se reporte sans cesse sur de nouveaux objets. Les gens qui voient le désir de ce point de vue-là pensent donc que le bonheur réside dans l'absence de désir. Alors, c'est pas toujours évident. Alors, c'est des sujets qui ont été énormément traités par les philosophes. Je suis pas très doué en philosophie, donc je vous ferai pas un exposé. De toute façon, c'est pas le but. Mais c'est des questions finalement qui, même en étant du domaine de la philosophie, nous touche aussi nous, et on y réfléchit des fois et on se pose des questions à certains moments. Et les philosophes qui se demandent est-ce qu'on doit réduire nos désirs? Ça touche toujours, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et est-ce qu'il faudrait pas réduire nos désirs et faire attention un peu à ce qu'on a envie? Est-ce que c'est possible de faire la distinction entre les vrais et les faux désirs? Est-ce qu'on peut avoir des bons désirs, des mauvais désirs? Est-ce qu'on peut faire une distinction? Est-ce que réduire nos désirs, c'est un devoir moral? Est-ce que la Bible nous dirait qu'il faut réduire nos désirs parce que c'est pas bien? Et est-ce que, encore mieux, la réduction des désirs conduit-elle au bonheur? Est-ce que c'est si on n'a aucun désir qu'alors on est satisfait et alors qu'on est heureux? Et donc schématiquement, chez les philosophes, on trouverait deux types de raisons. Alors je dis ça avec des guillemets parce que vraiment j'y connais pas grand-chose. Il y a des gens qui vont dire ben il faut réduire nos désirs parce que en les réduisant au minimum et en n'ayant plus de désirs, c'est comme ça qu'on est heureux. Et il y en a qui diront ben faut simplement accepter que c'est dans notre nature d'avoir des désirs et donc eh ben il faut essayer de satisfaire. Alors certains mettront une petite touche de nuance, certains diront qu'il faut satisfaire tous nos désirs comme ça on est satisfait, on est bien. Et d'autres diront qu'il faut satisfaire uniquement les bons désirs ou les choses qui sont des besoins. C'est là où on voit la petite différence entre désir et besoin. Et donc c'est deux vues complètement opposées. Et je pense que souvent quand on réfléchit à notre vie avec le Seigneur, on hésite un peu entre les deux. Il y a des fois on va dire ah non c'est pas bien que je pense à ça ou c'est pas bien que j'ai telle envie. Et des fois on se dit ben le Seigneur il nous laisse quand même libre et il y a des choses qui sont pas forcément mauvaises. Et je sais que moi-même des fois j'hésite à des choses, je réfléchis et on sait pas toujours à trop quoi penser et quelle est la vue de la Bible sur ça. Alors il y a une distinction aussi très facile qu'on a tendance à faire entre les besoins et les désirs. Les besoins ce serait ce qu'on a besoin, ce qui est nécessaire à notre vie. On a presque envie de mettre nécessaire physiologiquement à notre vie, donc manger, boire, dormir, choses comme ça. Et les désirs, bah, ce seraient des choses qui sont pas vraiment nécessaires à notre vie. J'ai envie d'une voiture, j'ai envie de, je sais pas trop quoi, d'un ordinateur. c'est une distinction que les gens font facilement. Et dans ce cas-là, on se dit, bah, être chrétien, c'est faire attention aux besoins, et donc faire attention à tout ce qui est vraiment nécessaire à notre vie. Et les désirs, eh ben, il faut les laisser tomber parce que c'est pas nécessaire. Et en fait, c'est pas évident de faire cette distinction-là parce que certains désirs, en fait, sont quasiment nécessaires. Être aimé, c'est pas un besoin physiologique, encore que. Et pourtant, c'est nécessaire, on en a besoin. Et si je mets ça sur un exemple, par exemple, si j'ai un désir amoureux pour Mademoiselle Delpouve, c'est pas nécessaire, c'est pas quelque chose qui est vital. Sauf que si ça, c'est pas satisfait, si je me marie pas avec elle, eh ben, je vais en faire une dépression et je serai pas bien. Et finalement, ça va toucher mon corps et ça va m'influencer comme un besoin physiologique, au final. Et donc, c'est des choses qui sont pas faciles à mettre la notion de ce qui est réellement nécessaire et ce qui l'est pas vraiment. Et d'autres personnes mettent une distinction qui est peut-être plus subtile, je sais pas si elle vaut mieux. Mais c'est que les besoins sont des choses où il y a une fonctionnalité qui est recherchée. Dans le sens où on peut substituer l'objet du désir. Et c'est juste, on a besoin pour une fonction. J'ai envie d'une voiture. J'en ai envie pas forcément pour avoir la 107 ou la 207 ou je sais pas trop quelle voiture. Mais j'ai besoin d'une voiture. Si on me donne n'importe laquelle, ça fera l'affaire. Parce que j'en ai besoin pour faire autre chose. Et alors que le désir, en général, il n'est pas substituable. C'est Mademoiselle Delpouf que je voulais, pas une autre. Je continue mon exemple. Alors dans tout ça, il y a un petit peu de tout dans la parole. Donc je vais vous lire juste quelques passages. Et dans les passages qui vont dire dans le positif, dans le pour les désirs, on va dire, ce serait dans Ecclésiaste, où il y a des choses qui sont très complètes. Donc, Ecclésiaste 2. Donc, juste après les proverbes. Du verset 1 au verset 11. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire, insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Et c'est là où c'est intéressant. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. C'est là où c'est intéressant. Il y a plusieurs versets dans l'Ecclésiaste, alors celui-là qui est assez appuyé, où il dit qu'il finalement il a tout essayé, tout ce qu'il pouvait avoir envie. Il se l'est payé, il n'y avait aucun problème, il pouvait voir tout, des femmes, des bâtiments, des arbres, des serviteurs, tout ce qu'il lui fallait, des richesses. Et il a dit qu'il en a pris du plaisir. Et c'est la part qui m'en est revenue. Et à d'autres endroits, il dit que c'est la part des hommes d'avoir du plaisir, de prendre du plaisir dans certaines choses. Et donc ça, c'est un verset qui nous dit, ben, le Seigneur, il a des bonnes choses pour nous, et finalement prendre du plaisir à certaines choses, c'est notre part, c'est ce qui revient à l'homme sur la terre, parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on est. Simplement, quand il continue, au verset 11, il dit « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à l'exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Et finalement, il dit « Autant on peut prendre du plaisir, autant ça peut nous amener de plaisir à faire tout ça, autant c'est pas encore la finalité, il manque quelque chose. » Et c'est pas là où on peut trouver le bonheur. C'est-à-dire qu'on peut trouver du plaisir, effectivement, mais pas le bonheur. Et il dit que c'est la poursuite du vent. Et moi, je rapprochais ça un peu du verset où Jésus dit que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est là où il y a déjà un premier point pour nous, de savoir qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent nous donner du plaisir sur terre, qui sont notre part même. C'est notre part d'avoir une femme, des enfants, d'avoir un mari, des enfants. Et c'est pour nous, le Seigneur nous donne des bonnes choses comme ça. Mais c'est pas encore le point final. Dans notre vie, s'il n'y a que ça, eh ben c'est pas suffisant. C'est pas ça qui nous apporte le bonheur. Et ça rejoint aussi toujours un verset dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, donc juste après au verset 11. « Il fait toutes choses belles en son temps. » Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Encore dans Ecclésiaste. Il est très, très bizarre, je trouve, ce livre de l'Ecclésiaste, très intéressant, parce qu'il montre des fois des choses, on a l'impression, complètement opposées, et qui pourtant se forment un tout, et qui est très, 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 très utile pour nous, des choses pleines de sagesse. Donc, Ecclésiaste 11. Alors, j'ai mis Ecclésiaste 11, verset 9. Sauf qu'il n'y a pas de verset 9. Alors, ça dépend peut-être des traductions. Il y a des traductions où le chapitre 12, il est encore au chapitre 11. Alors, chapitre 12, verset 1, chapitre 11, verset 9 pour d'autres. Ça dépend des versions. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. » Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Ça veut dire un peu fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Et ça nous montre encore une chose, c'est que quand on est jeune, on peut éprouver du plaisir à certaines choses, mais finalement, avec le temps, quand on les éprouve, ces choses, quand on les prend sur la durée, eh ben le plaisir, il diminue, et je pense que tout doucement, on s'aperçoit que c'est pas ça le but, il manque quelque chose, encore une fois. Et donc, dans le verset de tout à l'heure, c'était qu'il a, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est là, ça rejoint toujours le verset « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». C'est qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui a sa part dans le plaisir et qui a sa part dans les choses qu'on peut avoir. Mais il y a quelque chose dans notre cœur qui veut plus et qui cherche plus et qui peut l'avoir qu'en Dieu. Et ça, c'est notre... On a envie de faire la différence très classique de notre chair qui a besoin des désirs, de tout ça, et de l'autre côté, le spirituel qui a besoin de Dieu. Mais ça reste que notre vie, il n'y a pas deux parties en nous. C'est notre nous qui a besoin de certaines choses concrètes. Et en même temps, il y a Dieu au-dessus et ça, c'est irremplaçable par rien du tout. Donc l'Ecclésiaste nous dit plusieurs fois, si on retourne encore en arrière, Ecclésiaste 3, au verset 22, que c'est notre part. J'insiste parce que c'est vrai que des fois, on a tendance en tant que chrétien à se dire il faut vivre une vie bien, bien serrée, bien correcte. Et en même temps, c'est le cas. Mais Dieu, il a des bonnes choses pour nous. Il a du plaisir aussi pour nous. Ecclésiaste 3, verset 22. Ça nous dit « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. » Et encore au chapitre 5, verset 18. « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Et ça encore, ça nous réconforte. On peut, peut-être pour caricaturer, être riche et être chrétien. Simplement, pour tout ça, Dieu nous appelle en jugement après aussi. Faut retenir les bouts de versets souvent qui sont intéressants dans l'Ecclésiaste, les fins de chapitre. Dieu, il nous donne de nous réjouir, d'avoir des bonnes choses. Et ça nous dit aussi au chapitre 9, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc il y a vraiment une quantité de versets qui disent que le Seigneur a des choses desquelles on peut profiter, même dans les choses terrestres finalement, dont on peut alors profiter. Ça prend une connotation souvent négative. Alors toutes les choses dont on peut bénéficier. Non, si on les voit comme ça, ça sonne moins mal souvent. Et ça nous paraît logique. On se dit, bah oui, le Seigneur, il y a des bonnes choses pour nous, logique. Mais en même temps, moi, je me souviens de choses style un reportage qu'on regarde sur la Corée du Nord, où pendant une heure, on les voit, mais subir toutes les tortures et voir les conditions terribles qu'ils peuvent avoir. Ou sans même parler des chrétiens, parler des pays en Afrique où ils sont malheureux, ou des malheureux qu'il y a en France, pas loin de chez nous. Et quand on voit ça pendant une heure, les gens qui n'ont rien du tout. Et après, nous, on revient à notre vie à nous, on dit, ah ouais, j'avais besoin de ça, mais bon, finalement, je sais pas trop quoi. Ça nous remet les choses à notre place quand même quand on voit ces choses-là. Et des fois, on se demande après ça, on se dit, bah ouais, mais est-ce que c'est juste que moi j'ai des choses? Est-ce que c'est juste que eux, ils aient rien, qu'ils soient misérables et que moi, j'ai des choses ici? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je vende tout et que je sois de la même façon qu'eux? C'est pas toujours facile à répondre. Il n'y a pas de règle générale. Mais là, il nous disait, l'Ecclésiaste, si Dieu t'a donné des richesses, si t'a donné de profiter, de bénéficier de ça, eh ben, c'est un don de Dieu et réjouis-toi. Ça doit plus être un sujet de louange pour nous de voir ce que le Seigneur nous donne, en sachant qu'après, il y a d'autres choses où le Seigneur nous dit, eh ben, si t'as reçu des choses de moi, eh ben, donne-les et réjouis-toi aussi de les donner. Donc, on dépend vraiment souvent des circonstances, je trouve, de notre façon de penser. Quand on est entouré de bonnes choses, on a tendance à en profiter nous aussi. Et quand on voit des choses qui sont terribles à côté de nous, on se dit mince finalement, et puis là, on redescend un petit peu. Alors, il y a des, donc là, j'ai peut-être insisté un peu sur le fait qu'on a droit de bénéficier de certaines choses. Et en même temps, l'Ecclésiaste nous dit que ce sont des vanités et que c'est pas le but. Et en même temps, dans la Bible, il y a tout un tas de versets qui nous disent que les désirs, il faut y faire attention. Alors, il faut y faire attention, pas en se disant « je dois éliminer tous les désirs de ma vie », mais je dois y faire attention parce que certains sont mauvais. Et pourquoi ils sont mauvais? Parce qu'ils entraînent d'autres choses. Alors ça, c'est dans Jacques. Jacques 4, versets 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions, de vos désirs qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous enviez, vous avez envie, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et c'est là où il y a le piège pour nous, et on revient sur la définition qu'il y avait dans Wikipédia, que j'aimais beaucoup l'aspect que le désir, il est mauvais dans le sens où quand on le satisfait, il revient de manière illimitée. Vous avez envie de ça? Vous l'avez? Et ben après, vous avez encore autre chose. Et une fois que c'est réglé, vous avez encore autre chose. Et ça peut se répercuter sur plein de choses comme ça sans jamais s'arrêter. Et tout ça, ça crée dans nos cœurs ce que l'insatisfaction, ce que dit le verset. Et Et en fait, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous disent que les désirs, ils sont pas forcément mauvais en soi, mais que si vous les laissez, si vous les satisfaisez automatiquement, on a envie de dire, eh ben, ils donneront lieu à des nouveaux désirs, à une insatisfaction dans votre cœur de dire, ben, j'ai eu ça, mais finalement, j'aimerais bien avoir ça aussi. Et on s'arrête jamais. Et c'est là où finalement, on s'éloigne du Seigneur, parce qu'on n'apprend pas à se contenter de ce qu'on a. Il y en a plusieurs versets aussi qui nous disent de nous contenter, de savoir, dans un sens, contenir nos désirs, même si en fait, c'est pas notre travail. C'est aussi le Seigneur qui, dans notre cœur, fait le ménage et dit, tu vois, ce désir-là, t'en as pas besoin, c'est vraiment quelque chose d'inutile, de futile. Alors que ça, ben, c'est légitime et c'est là où c'est important pour nous d'être tellement proche du Seigneur que quand on a des envies, on sait si ça vient de nous ou si ça vient du Seigneur. Et on sait si on doit chercher à le satisfaire ou si au contraire on doit le laisser tomber. Alors dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 6, c'est ce que je viens d'expliquer plus ou moins. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est évident, mais pourtant, si souvent on oublie qu'on n'emporte rien du tout. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et là, c'est un avertissement pour nous. Si on est dans un pays où on a relativement, des fois largement de quoi vivre, faut faire vraiment attention à nous et à faire attention de ne pas en vouloir plus et tomber, comme certains, s'égarer loin de la foi juste parce qu'on a eu envie de certaines choses. C'est là où ça devient important. On a Paul aussi qui nous montre un exemple, qui est un exemple dans plein de domaines. Dans Philippiens 4, un verset très connu aussi, Philippiens 4, verset 10, où il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Donc là, il est content parce qu'il a reçu de l'argent et de l'aide de la part des Philippiens. Donc il leur dit qu'il est extrêmement content d'avoir su ça. Et il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Et c'est là où c'est intéressant aussi ce verset, c'est qu'il dit pas simplement « j'ai appris à me contenter de pas grand-chose », il dit aussi « j'ai essayé vivre dans l'abondance ». Et finalement, ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a aussi à apprendre. Quand le Seigneur, il permet des moments où on a suffisamment de quoi vivre, eh ben, on a à apprendre à vivre dans l'abondance. Avec ce que j'ai, qu'est-ce que je vais en faire? Et quand on vit, quand on a largement de quoi vivre, quand on a de quoi vivre, il y a des pièges qui sont tout aussi piégeux. Enfin, j'ai pas le mot, mais bon. Tout aussi piégeux que finalement avoir rien et avoir envie de tout. Ce serait on peut en nommer plusieurs, mais ce serait juste oublier qu'on a reçu ça de Dieu. On revient au verset d'Ecclésiaste qui dit « c'est un don de Dieu ». Et tout ce qu'on a, si on oublie que ça vient de Dieu, c'est là où on a un souci parce que on oublie ce que Dieu fait pour nous, on le remercie pas pour ce qu'il nous fait, et du coup on est en train de le mettre complètement à part de notre vie, et on pense que tout ça, ben, c'est moi qui l'ai gagné, c'est moi qui l'ai, parce que j'ai travaillé, parce que j'ai fait ceci. On peut aussi oublier d'être reconnaissant. Et j'aime aussi beaucoup l'idée, alors c'est pas forcément parce que je suis marié avec Maï, c'était avant, qu'on est intendant des biens de Dieu. Intendant, c'est quoi? C'est être gestionnaire. Si vous demandez ce que c'est être gestionnaire AMAI, c'est un peu de tout. C'est gérer les personnels, gérer l'argent, gérer les commandes, gérer la nourriture au restaurant, à la cantine. C'est de la gestion, et on s'occupe de tout, et ça implique faire un budget. C'est-à-dire que régulièrement, on est obligé de dire, ben, avec l'argent qu'on a, on va faire ça, ça, ça et ça. Et ben, dans tout ça, il faut faire un choix. Il y a des choses qu'on peut pas faire, on n'a pas assez, et des choses qui sont franchement inutiles. Le voyage de classe, je sais pas, en Sibérie, pendant un mois pour toute l'école, c'est un peu, c'est inutile. Bon, je caricature, hein, mais j'aime beaucoup ça. Et en fait, on est gestionnaire de ce que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire que l'argent qu'a le collège, ça doit être déjà des belles sommes, j'imagine, mais c'est pas Amaï. Elle en fait pas ce qu'elle veut. Et de la même façon, tout l'argent que nous, on peut avoir, et même pas simplement en termes d'argent, puisque gestionnaire, c'est aussi le personnel, c'est aussi le matériel. Donc c'est tout. Un peu de tout. Et tout ce qu'on peut avoir dans nos propres vies, ça nous appartient pas. On est gestionnaire de ça pour le Seigneur. Ça veut dire que on est censé faire un budget de ce qu'on a et dire ben ça, ça rentre pas dans le budget, il faut laisser tomber. Alors des fois c'est facile parce qu'on a un budget qui est très large et on se dit bon là on peut y aller un peu. Sauf que quand on a un budget large, il y a des dépenses très larges aussi à côté en général. Et les chrétiens ont des besoins énormes, ce qui fait que si vous avez des recettes très larges, il y a une très belle dépense qui peut partir là-bas aussi. Mais donc on est obligé de choisir et de faire attention. Et le jour où le budget est négatif, où il y a un problème dans le budget, la première personne qui trinque, c'est Maï. Et la même chose avec le Seigneur. Dès que le Seigneur voit que, bah écoute, qu'est-ce que tu fais de ce que je t'ai donné là? T'en fais n'importe quoi et finalement il manque de l'argent alors que je t'avais donné largement de quoi faire et il y en avait même pour d'autres encore. Et là, on est le premier responsable parce que c'est à nous que le Seigneur l'a confié. Alors, je reviens justement sur... quand on parle de nos envies, on se focalise sur nous-mêmes. On se dit, bah, moi, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Et bien souvent, les désirs, ils sont mauvais. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour nous-mêmes et c'est complètement... je pense à des caméras qu'on retourne tout sur nous. C'est que moi et je pense qu'à moi. Dans la Bible, alors là, c'est un nombre de versets incalculables sur donner aux pauvres, aider les autres, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Dans 2 Corinthiens aussi, on va lire quelques-uns quand même. Dans 2 Corinthiens. Chapitre 8, au verset 13. Donc c'est Paul qui parle aux Corinthiens et qui parle justement de la collecte. Et qui dit, « Il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. » Et ça, c'est une règle importante aussi. Le jour où on est dans le besoin, on sait qu'on peut compter aussi sur l'aide d'autres personnes. Alors dans le besoin, là, c'est financier, mais ça peut être matériel, ça peut être spirituel, ça peut être dans tous les domaines. On sait qu'on peut compter sur les autres parce que le Seigneur donne des fois plus à certains pour qu'ils puissent aider les autres, justement. Et quand on en a trop, et ben c'est l'inverse. C'est à nous à penser aux autres et à dire ben de ce que j'ai, plutôt que de satisfaire des envies qui amènent à rien, qui sont de la vanité, eh ben je vais aider les autres et je vais donner parce que le Seigneur m'a permis. Alors c'est une question que je reviens sur les désirs et tout ça, c'est une question qu'on se pose assez souvent dans le cadre des loisirs. Alors les loisirs ou d'autres choses, si je continue les caricatures, c'est est-ce que la dernière robe achetée par madame, elle était vraiment nécessaire ou est-ce que c'est pour la rajouter dans les 49 autres qui sont déjà dans l'armoire? Mais après, il y a le côté inverse, c'est est-ce que cet ordinateur, finalement, il était vraiment nécessaire? Ou est-ce que l'ancien, il fonctionnait pas encore et on aurait pu se satisfaire de ça? Il y en a pour tout le monde, hein, je vais pas... Mais c'est pas évident pour nous de juger Et c'est là où c'est pas évident, parce que si vous avez envie de votre ordinateur et que vous regardez pas le reportage sur la Corée du Nord, au final, vous allez vous l'acheter, parce que il n'y a pas de souci. Et si vous regardez le reportage juste avant, vous dites, oh mince, ah, je suis vraiment, non, là, je peux pas faire ça parce que c'est pas juste, et là, vous faites un don à porte ouverte. Et c'est terrible de comment notre façon de voir les choses dépend de ce qu'on a pu voir ou ce qu'on a pu écouter, et souvent à très court terme, parce que le reportage, vous le retiendrez pas toute votre vie. Au final, une semaine après, si vous avez encore envie de l'ordinateur, ben, il risque d'y passer. Et c'est pour ça où c'est important pour nous de pas dépendre de reportages, pas dépendre de plein de choses, mais vraiment, même dans la Bible, il n'y a pas de cas particulier. Ça explique pas si on peut acheter un ordinateur, parce que ça n'existait pas. Ça explique pas pour les voitures, ça explique pour tout un tas de choses, la Bible. Et le seul moyen pour nous de savoir si notre désir, on peut l'avoir ou pas, on peut le satisfaire ou pas, ben c'est d'être proche du Seigneur. Ça, c'est la seule règle générale qu'on puisse avoir. Alors, il y a des choses qui sont tout à fait légitimes, et là, les versets, ils sont aussi très, très, très connus. Alors, on tombe plus dans le domaine des besoins, mais c'est le Notre Père où le Seigneur Jésus nous apprend à demander ce qu'on a besoin au Père. S'il nous apprend à le demander, c'est qu'il sait que le Père va nous le donner aussi et qu'il y a des choses qui sont légitimes. Il y a des versets qui nous disent aussi « Faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières et des actions de grâce. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins avec sa richesse. » Et tout un tas de versets comme ça qui nous disent « Il faut avoir confiance. » Et ça, c'est un autre point aussi, que ce soit les désirs ou les besoins, la différence n'est pas facile, mais dans tous les cas, c'est à nous à faire confiance au Seigneur que si on en a réellement besoin, il pourra nous l'apporter. Et c'est là aussi où finalement on revient devant le Seigneur, et si on n'en a pas réellement besoin, et ben il ne nous le donnera pas. Et là au moins c'est clair pour nous. Et une chose que j'ai trouvée intéressante aussi, c'était au sujet de du peuple d'Israël. Alors, c'est un verset. Dans le psaume 78. Alors, c'est tous des versets connus, mais des fois on les rapproche pas forcément du sujet et on les met pas en relation. Psaume 78, le verset 18. Donc ça parle du peuple d'Israël dans le désert, et ça dit « Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture. » On dit « Bah mince, Seigneur Jésus nous apprend à faire notre Père, et finalement quand on le demande, eh ben ils disent que c'est tenter le Seigneur. » Et c'est là où il y a la petite suite du verset « Selon leur désir. » Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ? L'Éternel entendit, il fut irrité. Et un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. » Et plusieurs fois, ça revient sur des choses où ils ont demandé, mais pas comme il fallait. Ils avaient besoin, effectivement, de nourriture, ils avaient besoin de viande, ils avaient besoin d'eau, mais ils l'ont demandé juste pour satisfaire leurs besoins et sans faire confiance au Seigneur. Donc là, ça prend deux points. Il y a selon leur envie, leur façon. Et deuxième point, ils ne faisaient pas confiance au Seigneur. Et là aussi, c'est important pour nous de savoir comment est-ce que je demande les choses. Est-ce que je les demande avec confiance en sachant que c'est des besoins légitimes? Ou est-ce que je vais au Seigneur, j'ai besoin de ça, tu me le donnes même pas, ça fait combien de temps que je prie pour ça, et je râle, et je suis exactement comme le peuple d'Israël dans le désert. Et pourtant, c'était légitime, ils avaient besoin de manger. Et au verset 30, verset 29, on peut remonter. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs. Ils avaient encore la nourriture dans leur bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ils ne crurent point à ses prodiges. Et c'est là, finalement, ils demandent quelque chose de légitime, mais ils le demandent mal. Dieu leur donne, Et là encore, ils réagissent mal. On ne sait pas s'ils n'ont pas remercié le Seigneur, mais il semblerait qu'ils ont pris ça. Et c'est comme si le Seigneur faisait venir le pain, la nourriture, et ils se jettent dessus, et puis ils ne cherchent pas à comprendre, ils mangent, et voilà. C'est normal, vous en avez besoin, donc Dieu me le donne. Et si souvent on a des choses comme ça, où on se dit, rendre grâce pour la nourriture, c'est normal, je veux dire, j'en ai besoin, et puis de toute façon, c'est des choses courantes de la vie. Et pourtant, ces choses-là, les choses les plus banales, les plus légitimes, eh ben, là aussi, on doit rendre grâce au Seigneur, parce que c'est un don de lui. Même si nous, ça ne nous tombe pas forcément du ciel, c'est pas des oiseaux qui viennent chez nous, mais c'est des choses que Dieu nous donne d'une façon ou d'une autre. Un autre élément aussi, toujours dans 1 Corinthiens. Au verset 32. Alors ça s'applique au mariage, mais ça s'applique en vrai à beaucoup de choses, et je pense tous les désirs et les envies. Or je voudrais que, donc 1 Corinthiens 7, verset 32. Or je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Et ça aussi, c'est un point important. Si on est occupé par des désirs, par des envies particulières, on détourne nos regards en général du Seigneur et on s'inquiète pour ces choses-là plutôt que de s'inquiéter des choses du Seigneur. Toujours dans 1 Corinthiens, mais c'était même un petit peu avant, le Seigneur parle même des esclaves et des personnes libres. 1 Corinthiens 7, donc verset 20, « Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. » As-tu été appelé étant esclave ? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Et c'est là où c'est une règle pour nous, de savoir qu'il ne faut pas s'inquiéter et s'obnubiler avec des désirs, mais savoir que s'il y a possibilité que ça vient comme ça dans le courant des choses, eh ben, on peut en profiter pour devenir libre. Alors que si ça ne vient pas dans le courant des choses, on va nous déplacer les circonstances, faire tout ce qu'on peut pour que ça vienne au bon endroit et pour qu'au final on arrive à ça. Et là, on se détourne du Seigneur en faisant ça. Alors après, dernier petit point, il y a on pense au désir souvent de manière négative. Et alors quelques très courts versets. Paul qui disait qu'il y avait un vif désir d'annoncer l'évangile à ceux qui sont à Rome, qu'il était pressé des deux côtés et qu'il avait le désir de s'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Dans les psaumes, mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Et dans les proverbes, le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Il y a aussi des bonnes choses à désirer et des bonnes choses où on peut y mettre tout notre cœur, toutes nos envies et pour le Seigneur. Donc il y a vraiment de tout dans la parole, des choses où on nous dit vous pouvez bénéficier de certaines choses, mais attention, il faut pas que ça devienne un piège, il faut pas que ça soit un objet de distraction, que ça nous attire loin du Seigneur. Il faut pas que ce soit nos voix et pas celles du Seigneur. Il y a toute une série d'avertissements où on nous dit faites attention à ces choses-là, même si c'est pas mauvais en soi, c'est très très piégeur pour nous, et c'est très facile pour le chrétien de se retrouver sur une autre voie que ce qu'il voulait faire au départ. Alors je voulais finir avec une petite vidéo que j'ai trouvée sur internet, mais alors moi j'ai un petit faible pour ça parce que c'est entièrement fait en 3D avec des logiciels, donc je suis toujours fan, mais même dans l'esprit de la vidéo, le gars je le connais pas, celui qui a fait ça, mais l'idée est vraiment là de l'insatisfaction du cœur de l'homme, qui cherche à faire mieux et qui finalement reconstruit toujours les mêmes choses et retombe toujours dans les mêmes pièges. trouvais que c'était très très caricatural de la nature humaine d'avoir quelque chose de particulier au fond de nous, quelque chose qui brûle et qui en a, on va dire, qui en a marre de tout ce qui est organisé par le monde, de tout ce qui est trop cadré, tout ce qui est trop fait à la chaîne, et qui fait son propre truc à lui et qui marche si bien qu'il en arrive à reconstruire exactement la même chose et dans cette histoire à perdre ce qui était au fond de lui. Voilà. Seigneur, je te remercie de ce que tu veux cadrer nos envies, que tu as quand même des bonnes choses pour nous et que on n'est pas appelé à être des ermites, à nous couper de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Mais Seigneur, merci parce que tu mets un cadre, parce que tu sais que dans notre nature, il y a des mauvaises choses, Seigneur, il y a des choses qui nous entraîneraient loin de toi et loin du vrai bonheur, Seigneur. Et on te prie de garder nos cœurs tout près de toi, Seigneur, loin de tout ce qui peut nous détourner de toi, de tout ce qui peut nous distraire, et que tu nous aides chaque jour à marcher avec toi, Seigneur, à être tellement proche de toi, que tes envies deviennent nos envies, et Seigneur, que les nôtres, on puisse les laisser tomber et s'apercevoir de leur vanité, de leur peu d'éclat par rapport à ce que toi tu nous proposes. Continue d'agir dans nos cœurs et aide-nous, Seigneur, à ne pas être oublieux non plus, et Seigneur, aide-nous à avoir des piqûres de rappel régulièrement avec des choses où tu nous montres que là n'est pas le bonheur, que c'est de la vanité, mais que toi, tu as des vraies choses pour nous. Amen.